Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Le Seigneur du jour, c'est moi.
Ah, d'accord.
J'espère que vous allez tous bien dans le nom de Jésus.
Amen.
Et donc, aujourd'hui, nous avons pour thème la mission du disciple. Donc, je voudrais commencer par bénir le Seigneur pour la vie de tout un chacun ici présent. De façon particulière, que le Seigneur jette un regard sur nos vies, sur nos familles, sur nos entreprises. Et que par-dessus tout, le Seigneur daigne véritablement faire de nous des missionnaires authentiques, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la mission du disciple. La mission du disciple étant tellement importante, que Dieu fait tout ce qu'il peut faire pour permettre à ses disciples de mener à bien leur mission, alors quoi de mieux que de demander au Seigneur de véritablement faire de nous des missionnaires authentiques pour sa plus grande gloire. Et donc, comme je disais tantôt, le thème de ce soir, c'est la mission du disciple. Nous avons pour thème, référence biblique, donc pour texte de base, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 28, les versets 19 à 20. Que nous allons lire. Attendez, je cherche. Il y a ma Bible. À essayer de faire ses caprices. Et donc, allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous leur enseignerez pour qu'ils observent tout ce que je vous ai ordonné. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et donc, Donald, s'il te plaît, est-ce que tu peux laisser ton micro ouvert pour m'assurer que l'on s'écoute?
D'accord, il n'y a pas de souci.
D'accord. Donc, la mission du disciple. Nous allons commencer par définir l'expression mission. Et donc, la mission, c'est la charge, d'après le dictionnaire français, c'est la charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire quelque chose. Toujours le même dictionnaire français, c'est également l'envoi d'une personne, d'une ou plusieurs personnes pour un but précis. Et donc, il y a lieu de comprendre que si on parle de mission ou d'envoi, c'est que la personne qui envoie est supérieure à la personne qu'on envoie, donc à l'envoyé. Il est toujours bien de préciser que, étant donné que nous sommes dans un contexte typiquement chrétien, celui qui nous envoie, c'est Dieu le Père. Celui qui nous envoie, c'est Dieu le Fils. Celui qui nous envoie, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et donc, c'est à lui ou peut-être à eux que nous sommes censés obéir. J'insiste sur le fait que c'est à lui ou à eux, enfin, on va garder le lui, que c'est à lui que nous sommes censés obéir. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce que dans la vie de l'homme, normalement, l'homme obéit à trois réalités. On va le dire comme ça. Il y a la réalité de Dieu, il y a sa réalité à lui-même et il y a la réalité de l'ennemi. Nous n'ignorons pas que parce que Dieu nous a mandatés pour quelque chose d'important, l'ennemi ne voulant pas que se réalise la volonté de Dieu et les desseins de Dieu s'acharnent sur nous. Du coup, l'homme est toujours en face de trois entités, on va le dire comme ça. Donc, l'entité céleste qui est Dieu notre Père, le Créateur, le Fils, le Saint-Esprit, et lui-même. Quand je fais référence à l'entité personnelle qui est l'homme, je fais référence à ses passions charnelles. Et ensuite, à l'entité démoniaque qui est l'ennemi. Dans tous les cas, ces trois entités parlent. Du coup, lorsqu'on est en face de quelque chose, lorsqu'on est en face de notre mission, en temps normal, il y a une de ces entités qui parle. Maintenant, il y a lieu de faire le discernement, de savoir si c'est Dieu qui est en train de nous parler, si c'est nos passions charnelles qui sont en train de parler, ou si c'est le gars à la petite culotte qui est en train de chuchoter quelque chose à notre oreille, en vue bien entendu de nous dérouter, de nous faire passer à autre chose, en pensant que c'est la chose à laquelle Dieu veut que nous nous allions. Du coup, il faut vraiment qu'on sache qui parle, qui murmure à notre oreille ou qui parle à notre cœur, de sorte à ce que ce soit bien clair dans notre esprit, parce que la parole de Dieu déclare que mes brebis entendent ma voix et ils me reconnaissent. Du coup, lorsque tu es en face de quelque chose, il faut véritablement qu'au-delà de toi, tu sois à mesure de déceler qui est en train de parler. Si c'est Dieu le Père qui parle, si ce sont tes passions au-delà de toi qui parlent, ou si c'est le gars à la petite culotte. Parce qu'il faut comprendre que dans cette affaire de mission, il faut que tu sois sûr à 1000% que tu entendes bien la voix de Dieu, que tu entendes bien la voix du Seigneur, afin de mieux marcher dans ta mission, afin de mener à bien la mission qui t'a été confiée ou l'exercice que l'on t'a demandé de faire. Et donc, le décor planté, ça c'était l'introduction. Nous passons au vif du sujet. Et donc, bien-aimé, avant d'abord de bel et bien rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais nous faire remarquer que lorsque le Seigneur, depuis le sein de nos parents, de notre mère, qui nous a choisis, nous a localisés, il avait déjà dit que voilà, il nous avait choisis pour un but bien précis, celui de travailler à sa moisson. Il y a que lorsqu'on est, on grandit et finalement on se baptise, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on renonce à l'ancien homme pour finalement revêtir le nouvel homme. Il y a que la base de ta mission, bien-aimé, repose sur l'obéissance. Il n'est pas possible de se prétendre être disciple de Jésus-Christ et ne pas lui obéir. C'est de l'obéissance qu'émane ton entrée dans ta mission, ton entrée pleinement dans ta mission. La parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, les versets 3, déclare qu'il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il est question pour toi, bien-aimé, que tu sois un bon serviteur, que tu sois un serviteur fidèle, à qui le maître dira « rentre dans la joie de ton maître ». Parce que tu ne peux pas mener à bien ta mission si tu n'obéis pas au Seigneur. Il va te dire « fais quelque chose » et puis finalement reporter la chose à demain, et puis quand demain arrive, tu dis encore demain, et ainsi de suite. Au pire, tu dis catégorie comme un non. À ce moment, tu refuses complètement la mission. Parce que qui dit mission dit obéissance. Pour ceux dont la vie professionnelle exige que leur chef leur envoie en mission, eh bien, c'est l'obéissance. Lorsque ton chef a dit tu vas en mission pour telle chose, tu ne fais que ce pourquoi on t'a envoyé. Mais pour pouvoir faire ce pourquoi on t'a envoyé, tu dois d'abord pouvoir accepter. Aussi difficile soit la mission que l'on te confie, tu acceptes, tu obéis, tu rentres dans ce que l'on t'a demandé de faire. Du coup, bien-aimé, il est question pour toi d'être un bon serviteur en obéissant fidèlement à ce que ton maître t'aura donné. J'insiste sur fidèlement à ce que ton maître t'aura donné parce que on peut avoir tendance à vouloir, pas falsifier, mais à vouloir arrondir les angles dans notre mission, dans ce à quoi le Seigneur nous appelle. On a tendance à vouloir négocier et tout, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que, Seigneur, est-ce que... Non, il s'agit d'être un bon serviteur et un serviteur fidèle. Aussi, il faut que tu comprennes que dans ta mission en tant que disciple, il faut que tu te voues entièrement au Seigneur. Ton corps, ton âme, ton esprit, tout ce que tu es, ton intelligence, ta parole, tout ce que tu es, doit être voué au Seigneur. Parce que s'il s'avère qu'en toi, tu as cédé une partie au Seigneur et une autre partie, je ne sais pas toi à qui tu l'as cédé, il y aura un conflit. D'accord? Il y aura un conflit entre cette partie que tu auras cédée au Seigneur et cette autre partie que tu n'auras pas cédée. Du coup, tu vas ressembler là à quelqu'un qui est en pleine mer et puis il a le pied droit dans une barque, le pied gauche dans une autre barque. Et lorsque le vent va souffler, les deux barques, bien entendu, vont bouger. Et toi, tu seras là en train d'essayer de t'appuyer tantôt du côté gauche, tantôt du côté droit. Mais malheureusement pour toi, tu ne vas tomber ni dans la barque gauche ni dans la barque droite. Tu vas tomber tous trois dans la mer. Raison pour laquelle il te faut impérativement être voué entièrement au Seigneur. Il faut impérativement que tu saches qu'une fois engagé là-dedans, ce n'est plus une histoire de mon âme est dedans, mon esprit est dedans, mais mon corps n'est pas dedans. Oui, une affaire de mon corps est dedans, et puis mon esprit n'est pas dedans. Généralement, c'est souvent le corps qui est dedans, et puis l'esprit n'est pas dedans. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faudrait vraiment que le Seigneur parle à ton cœur et te donne la capacité d'être ce serviteur-là qui aura tout voué au Seigneur. Son corps, son âme, son esprit, sa famille, ses biens intérieurs et extérieurs, tout ce qu'il a, il prend, il donne au Seigneur en guise d'offrande. Et donc maintenant, bien-aimés, nous rentrons dans le vif du sujet. Je commence avec la lecture du livre de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, les chapitres 4, les versets 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour donner aux pauvres une bonne nouvelle. Il m'a envoyé annoncer la libération aux captifs, la lumière aux aveugles. Il me faut libérer ceux qui sont écrasés et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Alors, bien entendu, lorsque je lis ce texte, bien-aimé, je suis censé déjà comprendre que la mission du disciple est celle de l'évangélisation. En tant que disciple, bien-aimé, ta mission première, et j'ai même envie de dire ton unique mission, c'est d'annoncer le kérigme, c'est-à-dire la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ta mission première et ton unique mission, c'est d'annoncer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en d'autres termes la bonne nouvelle. Bien-aimé, annoncer la bonne nouvelle ne dépend pas de ce que tu sois prédicateur ou que tu ne sois pas prédicateur. Que tu sois enseignant, que tu ne sois pas enseignant. Que tu sois exhortant, que tu ne sois pas exhortant. Ça ne dépend pas de ça. Cette mission, sinon cet appel, c'est un appel d'ordre général. Depuis le sein de ta mère, cet appel pesait déjà sur ta vie. Ce n'est pas une affaire de « oh, moi je suis à l'intercession, je n'ai fait qu'intercéder ». Comme une fois, une chantre m'a répondu « ah, Dine, écoute, moi je suis chantre, je n'ai fait que chanter les affaires des prêchés là, à annoncer la bonne nouvelle là, ce n'est pas mon truc, moi c'est seulement chanter ». Je lui ai répondu ce que je vais te répondre aujourd'hui. Annoncer la bonne nouvelle, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir avec le fait que tu sois chantre, que tu sois intercesseur, que tu sois prédicateur, que tu sois à l'accueil, que tu sois à la communication. Ça n'a strictement rien à voir avec. C'est l'appel de base qui repose sur ta vie. Depuis que tu es né, jusqu'à ce que tu aies accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on t'a baptisé, on t'a dit au nom du Père, je te baptise, au nom du Fils, je te baptise, de l'Esprit, je te baptise. Jusqu'à, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, jusqu'à tu parles en langue et tout ça. Tout ça là, c'est uniquement pour annoncer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc pour toutes les personnes qui dans leur tête, c'est « je suis intercesseur », l'affaire d'aller annoncer la bonne nouvelle là, c'est pas moi. À compter d'aujourd'hui, fais déjà une prière à Jésus où tu vas demander pardon pour avoir dit que l'affaire d'annoncer la bonne nouvelle, là, ce n'est pas pour toi. Commence déjà à dire que Seigneur, s'il te plaît, trouve déjà le moyen de m'arranger ou de me déranger dans mon confort, de sorte à ce que dans mon esprit, cette affaire de je suis seulement intercesseur, je suis seulement à la communication, je suis seulement comme ça, là, je ne suis pas prédicateur, alors l'affaire d'aller prêcher, d'aller annoncer la bonne nouvelle, là, ce n'est pas mon affaire. Le livre de Matthieu, sinon l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, que nous avons lu tout à l'heure, donc le texte de base, dit « Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans l'évangile de Matthieu, ce n'est pas écrit, c'est et même dans toute la Bible, ce n'est pas mentionné. Sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas. Ce n'est nullement mentionné que allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, était réservé aux prédicateurs. Et puis les chantres, eux, ils chantent seulement. Et puis les intercesseurs, eux, ils intercèdent seulement. Ce n'est nullement mentionné. C'est un impératif, c'est un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La voici ta mission en tant que disciple. Si bien entendu, tu as choisi le Seigneur Jésus-Christ comme ton maître, la voici ta mission, celle de faire de toutes les nations les disciples. Seulement, il y a un petit problème. Pour ceux qui finalement ont compris quelle était leur mission, quelle était la mission, la grande mission qui leur a été confiée, ils sautent souvent une étape. L'étape selon laquelle on commence à faire des disciples dans sa propre maison. Généralement, on saute la maison, on va directement dehors. Ceux qui sont dans la maison là, le Seigneur aussi les regarde. Pour ceux qui n'ont pas encore adhéré à notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur aussi a besoin d'eux. Vu que toi, tu as déjà adhéré, commence dans ta maison à faire tes disciples. Si toi, tu es un disciple, fais aussi de membres de ta maison des disciples. Si tu es disciple aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a fait de toi un disciple. Pourquoi tu ne veux pas aussi faire des autres des disciples du Seigneur? Généralement, on saute l'étape là. C'est vrai qu'on n'est pas forcément prophète chez soi. C'est vrai. Mais comment savoir que dans ta propre maison, on ne t'accepte pas comme prophète si tu n'as rien fait? Il faut d'abord tester chez soi. Tu vois d'abord comment dans ta maison, on te dit « Ah, pardon, laisse ton affaire là. » Avant de pouvoir dire que dans sa propre maison, on n'est pas prophète, on refuse les prophètes qui naissent dans sa propre maison parce qu'on a vu comment tu grandissais, tu étais bandit, etc. Tu n'as pas d'abord essayé, mais tu dis déjà « Oh, le prophète n'est pas bien accueilli chez lui. » Il s'agit d'abord d'essayer. Tu essayes et puis tu laisses la parole de Dieu agir. Celle-ci n'a pas besoin que tu viennes beaucoup l'expliquer pour qu'elle agisse. D'elle-même, elle agit parce que ce sont les paroles de Dieu et celles-ci sont esprit et vie. Ensuite, la Bible déclare toujours « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » La voilà encore ta mission. Aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ici, c'est annoncer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es partout où tu es. Dans les bars, pour ceux qui veulent les bars, dans les snacks, pour ceux qui veulent les snacks, dans les restaurants, pour ceux qui veulent les restaurants. Excusez-moi, dans la rue, pour ceux qui sont dans la rue, là, c'est partout qu'on doit prêcher. C'est partout qu'on doit annoncer la bonne nouvelle. Et la fin de ce texte dit à toute la création. La création, là, ça renvoie à tous les animaux. Ça renvoie à tous les êtres vivants, tous les êtres humains. Tu prêches à qui tu croises sur ton chemin. Il ne s'agit pas seulement de prêcher qu'aux hommes. La Bible est claire dans ce qu'elle dit. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tout ce que Dieu a créé là doit entendre cette bonne nouvelle, doit entendre que le Christ est mort et ressuscité pour cette création-là. C'est-à-dire que même les difficultés que tu rencontres dans ta vie, aussi féroce soit-il, aussi compliqué, difficile, que quand tu regardes, tu mets seulement les mains, une main aux hanches, une autre main à la tête, et tu te dis, hey, Seigneur, est-ce que l'affaire, un jour, j'en sortirai? Même cette situation-là, tu dois prêcher à cette situation-là la bonne nouvelle. Tu dois dire à cette situation-là que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Écoute ça, et cette situation va écouter. Parce que généralement, on pense que cette affaire-là ne concerne que les êtres humains. Les hommes et les femmes que nous sommes. Non. Ce que tu vis dans ta chair et dans ton esprit fait partie de la création de Dieu. Si c'est là, c'est que ça existe. Et si ça existe, c'est que Dieu est au courant. Et comme il a déjà sorti de sa bouche qu'il faut que tu prêches la bonne nouvelle à toute la création, mais pourquoi lorsque quand tu as une difficulté, la première chose ou la première attitude que tu adaptes, c'est une affaire de tristesse, une affaire de mon cas est compliqué, on ne peut pas résoudre ça. La bonne nouvelle, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque Jésus est mort, le rideau du temple s'est déchiré. Si le rideau du temple s'est déchiré et que ce même Jésus est allé en enfer, là où c'est compliqué, beaucoup compliqué, en bas là-bas, il est allé ramasser tout ce qui était là-bas et il leur a dit qu'on part. Donc c'est ta situation-là que tu estimes que la bonne nouvelle, la mort, la résurrection de Jésus-Christ ne peut pas venir arranger, ne peut pas venir changer. Si tu es encore dans cette position-là où pour toi prêcher là, c'est seulement un homme ou une femme devant toi à qui tu vas venir prophétiser là, c'est le moment maintenant de faire une jolie prière à Dieu et de dire à Dieu que s'il te plaît, reformate-moi de sorte à ce que véritablement ta parole, je la prenne au mot. La parole de Dieu, on la prend au mot. Il a dit, j'ai pour toi des projets de bonheur et non des malheurs. Toi, ne viens pas arrondir les angles pour dire que les projets de bonheur, là, peut-être que ça, c'est pas dedans. Non, la parole de Dieu, on la prend au mot parce que lui-même, il déclare qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, s'il te demande, s'il t'ordonne de prêcher la bonne nouvelle à ta situation, pardon, prêche seulement. Ne pose pas la question que, ah, est-ce que c'est... Laisse-la faire, la prêche seulement et laisse Dieu agir par sa parole. Et donc, nous allons également lire Marc 1, les versets... Marc 1, les versets 14. Marc chapitre 1, les versets 14. Après l'arrestation de Jean, Jésus s'en alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu. En ces termes, les délais sont accomplis, le règne de Dieu est là. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, bien-aimés, il n'y a que normalement, dans cette affaire de mission qui t'incombe, le texte dit, il proclamait la bonne nouvelle de Dieu en ces termes, les délais sont accomplis, le règne de Dieu est là, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimés, normalement, cette parole ainsi relâchée doit pouvoir faire quelque chose de grand au-dedans de toi. Ça doit pouvoir bouger tes entrailles pour que, comme Élisabeth, tu sentes que la vie de Dieu qui est au-dedans de toi là a fait un mouvement pour te faire comprendre que je suis là, moi, la vie de Dieu, je suis en toi. Et que parce que tu portes la vie de Dieu en toi, normalement, bien-aimé, le monde ne doit pas t'influencer. Les effets spéciaux de ce monde-là ne doivent pas t'influencer, t'effrayer. Ce n'est pas toi qui dois être impacté par le monde, mais c'est toi qui dois impacter le monde parce que tu as reçu mandat de proclamer que les délais sont arrivés. Tu as reçu mandat de proclamer qu'il faut se convertir, qu'il faut changer de vie. Donc, il n'y a pas de raison, bien-aimé, que toi, tu sois influencé ou impacté par les choses du monde. Au cas où tu as oublié, bien-aimé, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Étant donné que tu n'es pas de ce monde, c'est que toi, tu es dans les hauteurs. Et vu que tu es dans les hauteurs, c'est que tu as la capacité d'influencer ce qui est plus bas que toi. Alors, ne te laisse pas influencer par ce qui est plus bas que toi. C'est à toi d'être un influenceur. Normalement, sur les réseaux sociaux-là, c'est les chrétiens qu'on devrait voir en train d'influencer. C'est les chrétiens qui devraient être des influenceurs. Ce n'est pas les influenceurs au créole. Ce n'est pas les influenceurs au la kinga. Ce n'est pas les influenceurs bizarres qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas eux qui devaient être là. C'est nous les chrétiens qui devons être là. Parce que nous avons reçu le pouvoir. Et qui nous a donné ce pouvoir? Le créateur du ciel et la terre. Le maître de l'univers visible et invisible. Alors, normalement, tu ne dois pas te laisser influencer par les effets spéciaux de la vie. Parce que le monde veut te montrer. Le monde veut te montrer que c'est naturel un homme et une femme. Mais toi, parce que tu as la parole de Dieu en toi, tu sais que ça, ce n'est pas normal. Alors, tu ne t'accommodes pas à ça. Lorsque tu as l'occasion de voir une femme faire leur affaire, tu leur bombardes la parole de Dieu, tout en sachant que la parole de Dieu ne s'impose pas, elle se propose. Mais toi, tu dois juste rester dans cette position-là de missionnaire. Le gars à qui, depuis le sein de sa mère, on a dit, va, fais de toutes les nations, fais de toutes les nations des disciples, de sorte à ce que tout le monde entier revienne à Jésus-Christ. Bien-aimé, là, comme ça, je suis tentée de te poser la question de savoir, depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là, combien de disciples as-tu déjà? Comme ça, si jamais le Seigneur vient te chercher la nuit, là, et puis quand tu arrives au dernier jugement, quand il te pose la question, c'est moi que Où sont les disciples? Il n'a même pas encore fini, disciple. Tu es déjà en train de pointer du doigt que Seigneur, toi-même, regarde. J'ai fait de telle personne un disciple. J'ai fait de telle autre personne un disciple. Ne te laisse pas influencer, bien-aimé, par le monde et ce que le monde te propose. C'est à toi d'influencer le monde. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Et surtout parce que c'est la mission que ton maître t'a confié, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, celle de faire en sorte que soient mises en pratique les bonnes œuvres et non les mauvaises œuvres. Parce qu'aujourd'hui, on a normalisé la normale. Toi, parce que tu es enfant de Dieu, rentre dans ce plan-là, de sorte à ce que lorsqu'on te voit, on se dise « Ah tiens, voici un faiseur de disciples ». Aujourd'hui, bien-aimé, si tu es disciple, c'est parce que les 12 apôtres ont fait des disciples. Ils sont allés aux extrémités de la terre. C'est aujourd'hui grâce à 4 types que l'évangile est arrivé jusque chez moi à Mimongo, là-bas où il n'y a même pas la route pour arriver là-bas, c'est des problèmes. C'est grâce à l'acharnement de 4 personnes. Si 4 personnes, de façon immédiate, ont permis à ce que l'évangile arrive jusqu'aux endroits où il y a la guerre, aux endroits où même ton esprit ne peut pas penser que cet endroit existe. Combien de fois, nous qui sommes plus de 4, normalement, si 4 ont fait en sorte que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre, vu que nous ne sommes plus que 4, normalement, il ne devrait plus y avoir des gardes qui n'ont pas encore choisi de se positionner pour le Seigneur. Parce que si nous sommes encore dans cette situation où il y a des personnes qui ne reconnaissent pas le Seigneur comme leur maître et sauveur, c'est que toi et moi, on n'a pas encore bien fait notre boulot. Toi et moi, on est encore dans les histoires de « est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas ?» Ou encore dans les histoires de « ah, j'ai mes problèmes, je vais d'abord m'asseoir et chercher la solution à mes problèmes. » C'est la raison pour laquelle il y a encore des personnes qui sont susceptibles de se retrouver en enfer. Parce qu'on ne bombarde pas assez. N'aie pas peur d'abuser de la parole de Dieu. Il faut abuser. Tant qu'il te demande d'abuser, abuse. Il ne faut pas avoir peur. Ensuite, bien-aimé, tout à l'heure, je disais que lorsque tu prends conscience de ton affaire de mission là avec Dieu, il y a que tu dois être voué totalement à lui. Regardons l'épisode de Pierre qui, après la mort de Jésus, lorsque ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils commencent véritablement leur mission, il y a que les apôtres et Pierre, de façon particulière, on cherche seulement à finir sa vie. En français facile, là je paraphrase. On cherche seulement à finir sa vie à tel point que le gars, il veut seulement quitter la ville, il veut partir. Il dit que l'affaire là, c'est trop dur, j'abandonne. Et là, il sort de la vie, il dit que je vous laisse avec votre affaire, j'ai beaucoup parlé, vous ne comprenez pas, moi je pars. Et là, au moment où il est en train de fuir, bien-aimé, qui est-ce qu'il croise? La personne qui lui a mandaté. La personne qui lui a dit, Pierre, c'est sur toi là que mon église là va s'asseoir, c'est toi le garant de mon église. Il veut fuir et il croise qui? Celui qui lui a mandaté, qui lui a dit que tu montes, tu descends, l'affaire là c'est toi. Et là, il sort, il croit Jésus qui rentre, là où il lui fuit, là, le Jésus est en train d'y rentrer. Et il pose la question que, mes seigneurs, where are you going? Et le Seigneur dit que, mais moi, je suis en train de partir, là où tu fuis, là, c'est là-bas que moi, je pars. Et Pierre discute avec le Seigneur. Essayons un peu de voir cette image-là. C'est comme ça que vous et moi, nous sommes, à chaque fois qu'on ne veut pas annoncer la bonne nouvelle, on veut discuter avec le Seigneur. On sait qu'on a été mandaté. On sait qu'on a reçu un mandat authentique. On sait que nous sommes des missionnaires authentiques. Mais parce qu'on voit que l'affaire est dure, on en veut à notre vie. On n'a pas forcément d'argent. Notre vie, on regarde à ses problèmes. Tu marches même un peu problème. Tu dis même bonjour à quelqu'un problème. Tu veux des affruits. Et puis tu croises celui qui t'a mandaté. Tu croises ton maître. Et là, tu veux discuter avec lui. Autant l'affaire est un peu dure. Et là, il te dit, si tu m'as choisi de simplement me suivre, là où moi je pars, allons. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il est retourné là où il fuyait. il est retourné se replonger dans la fosse au lion. Que finissez-moi une bonne fois. Mais si je dois mourir, que je meure pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, cette parole est adressée à quelqu'un ici, aux disciples de Jésus. S'il faut que tu souffres, souffre pour le Seigneur Jésus-Christ. S'il faut que tu sois injurié, méprisé, rejeté, que ce le soit pour le Seigneur Jésus-Christ. Heureux, heureux êtes-vous. Si vous êtes persécuté à cause de mon nom, si c'est pour le Seigneur que tu es persécuté, qu'on ne t'aime pas dans ta famille, là, parce que quand tu ouvres la bouche, c'est toujours la parole de Dieu que tu veux annoncer là. Parce que quand tu soupires même, on sent que ton soupir, c'est le soupir de l'évangélisation. Souffre pour le Seigneur. La mission n'est pas facile. La personne qui va vous dire que la mission d'évangéliser est facile, c'est une personne qui vous ment. Parce que sinon, ce serait dire que la vie de Jésus, les épreuves que Jésus a vécues, c'est du mensonge. Et comme vous et moi, on sait que ce n'est pas du mensonge, alors accrochons-nous simplement. Et à chaque fois qu'on sera amené à abandonner cette mission, parce qu'on est fatigué, ça ne va pas, le moral, ça ne va pas, c'est compliqué l'affaire là. Je prie véritablement que l'on rencontre Jésus-Christ à chaque fois qu'on aura envie d'abandonner. Et que finalement, on retourne à l'appel de base. Que l'on retourne à ce premier amour. Que l'on retourne à cette mission qui nous a été remise entre les mains. Jésus, en face de toi, t'a dit, fais de toutes les nations des disciples. Prêche, abuse de ça. Tu veux prêcher matin, midi et soir, tant que c'est le Seigneur qui te demande de le faire. Gars, fais seulement, abuse de ça. Faut pas souvent dire que oh, l'évangélisation, ah pardon, j'ai prêché le matin, j'ai aussi prêché à midi, donc le soir, je me repose. Abuse, matin, midi et soir. Même dans le songe où le Seigneur te montre tes ennemis, tu prêches à tes ennemis dans le songe là. Tu leur annonces la mort et la résurrection de ton Seigneur Jésus-Christ. Tu fais ça au propre, là, vraiment, le Seigneur, il te dit que régale, voici tes ennemis. Je te les livre. Tu dis, oh Seigneur, merci parce que ta parole est en moi. Je vais leur prêcher la fête, là, de sorte à ce que le matin, quand on se croise, ils ont reçu la bonne nouvelle, là. Et on se régale en si assez bonjour, bonjour, ça va, oui. Tu as déjà reçu. Je t'ai prêché de mon songe parce que le Seigneur a permis que tu me sois livré. Et pour poursuivre, bien-aimé, parce qu'en théorie, j'ai terminé avec la mission du disciple, qui n'est rien d'autre que de proclamer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Seulement, autour de cette évangélisation, autour de cette mission, il y a beaucoup de choses qui gravitent. D'accord? Le tout n'est pas forcément de se focaliser sur la mission. Et quand je parle de se focaliser sur la mission, veuillez ne pas le prendre au sens premier. Sinon après, ça va créer une confusion. Ce sera contradictoire. Non, ne le prenez pas au sens premier. D'accord? Quand je dis de ne pas se focaliser forcément sur l'évangélisation, je fais référence au fait qu'autour de cette évangélisation gravite beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que si on ne fait pas attention à ce qui gravite autour de l'évangélisation, on aura raté notre évangélisation. Parce que n'oublions pas que dans cette affaire d'évangélisation, il y en a tellement qui le font. Tout le monde même, enfin j'ai envie de dire, tout le monde le fait. À telle enseigne qu'on ne sait plus qui évangélise pour le Seigneur, par le Seigneur et avec le Seigneur. Aujourd'hui, lundi, tu te réveilles, en face de ta maison, c'est un bar. Demain, mardi, tu vois que le bar n'ouvre plus. Mercredi, le bar n'ouvre plus. En fin de semaine, comme ça là, dimanche, boum, c'est déjà l'église. Le pasteur est venu, un nouveau pasteur. Tu fais un peu sympa, c'est une autre église, le pasteur. Tu marches un peu, on t'interpelle déjà. Oh, ma soeur bien-aimée, le Seigneur, vraiment, vraiment, il veut te dire quelque chose, machin, et tout, et tout, et tout. En parlant de ça, je viens de me rappeler qu'il y a, deux semaines, deux ou trois semaines, je quittais du centre-ville où je vais vendre mes salades de fruits et je partais à Petit Paris pour pouvoir acheter les fruits. Et là, je vais taire le nom de l'église quand même par respect. Je marchais et une maman qui m'accoste et qui me dit « Ma fille, vraiment, je sais que tu travailles, mais voilà, chacun a son travail. Moi, mon travail, c'est prêcher, voilà, annoncer la bonne nouvelle et tout, et tout, et tout, et tout. L'église est juste là à côté. Viens, on va parler du Seigneur. » Bon, je me laisse emporter, c'est quand même l'affaire du Seigneur. Je me dis, je vais aller écouter. Et donc, j'arrive, je ne sais pas si j'étais dans une espèce de séminaire ou je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient, mais je suis rentrée et, suivant la maman, elle m'a orientée dans une espèce de poule, je dis ça comme ça, une espèce de poule, parce qu'il y avait des chaises, donc deux chaises, la personne qui parlait, donc je suppose les responsables de l'église, et puis la personne qu'on reçoit. Et donc, je suis arrivée, elle m'a conduite en face d'un jeune homme. Je vous assure que j'ai eu à peine le temps de m'asseoir. Bonjour, bonjour. Le temps de s'asseoir, vraiment, comme on dit, tu t'assois et tu soupires pour écouter ce que la personne a dit. J'ai juste le temps de m'asseoir, je n'ai même pas soupiré. Le gars a commencé à m'allumer les paroles, je ne sais pas si c'est des connaissances ou quoi, où il prophétisait. Il parlait mécaniquement. Je n'écoutais rien et je ne comprenais rien. Dans son langage, il n'y avait ni point, ni virgule, ni point, virgule, ni deux points, ni point d'interrogation, ni point d'exclamation. Le gars, il était linéaire, mais apparemment, il est en train de me prêcher. Bon, en bon enfant de Dieu poli que je suis, j'ai ravalé doucement mon soupir et je l'ai écouté sans comprendre ce qu'il disait parce que non seulement il ne parlait pas très fort, mais il parlait mécaniquement. On dirait le robot. La première fois de ma vie, je vois quelqu'un qui parle de notre Seigneur Jésus-Christ. On dirait le robot. Même les témoins de Jéhovah, ils ne font pas comme ça. Et au moins, tu écoutes ce qu'ils disent. Mais le gars, là, le jeu, là, le robot, hein, je l'ai vu là comme le robot. Il parlait son affect. Il a fini et il me pose la question. Est-ce que tu as une question? Et à moi de répondre, je n'ai aucune question parce que tout ce que tu as dit, je n'ai rien compris. Mais par respect, je n'ai pas dit que tu parlais comme un robot. Donc, j'ai gardé ça dans mon cœur. Même si c'est que j'ai péché, mais j'ai gardé ça quand même dans mon cœur. Et là, le gars me pose la question. Pourquoi tu ne veux pas accepter le Seigneur Jésus? Et à moi de lui répondre, tu es sûr que dans tout ce que le Seigneur t'a révélé sur moi, là, il ne t'a pas dit que moi, je le connaissais déjà. J'ai dit que je connais le Seigneur Jésus seulement. Je suis déjà engagé dans une église, faisant en sorte que je ne peux pas aussi venir de ton église. Et dans mon cœur, j'ai ajouté, surtout là où tu parles comme un robot, là, ça ne m'attire même pas. Et on a fini de parler, tout, je suis rentrée à la maison et je me suis dit, si c'est ça évangéliser, si c'est ça parler du Seigneur, c'est qu'on a un problème. C'est qu'on a vraiment un problème. Parce que tu ne peux pas être en train de parler de celui qui donne la vie éternelle. Et puis la personne sort de là, elle n'a pas l'air de se questionner sur ce qu'elle fait dans sa vie pour que le Seigneur y soit ou n'y soit pas. Mais qu'elle se questionne sur, mais le gars, il voulait dire quoi, c'est quoi cette façon de parler? Et donc, pour revenir à ce que je disais, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de l'évangélisation, la mission qui nous incombe à tous, de façon générale ou de façon particulière. Ces choses sont importantes. Elles sont très importantes parce que on les retrouve dans la Bible. Et ce qu'on retrouve dans la Bible, on doit en accorder une importance capitale. Je m'en vais là commencer par nous parler d'un phénomène implique avec beaucoup de difficultés. Après, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Et l'exemple de qui là? D'André, de notre berger, l'exemple de Charlie, l'exemple de toutes les personnes qui ont un apostolat, ils le font. Ce phénomène, c'est le phénomène de préparer la relève. Le livre de Matthieu, que nous avons lu tout à l'heure, là, le chapitre 28, le verset 20, pour être plus spécifique, ajoute, dit, « Et vous leur enseignerez pour qu'ils observent tout ce que je vous ai ordonné. » Le principe de la relève dans l'évangélisation est primordial, bien-aimé. Il faut créer la relève pour perpétuer l'affaire de Dieu. Parce que dans l'affaire de Dieu, il faut aussi comprendre qu'on a un temps. Et ce temps, on l'a par rapport, comment on dit, par rapport au temps qu'il nous a accordé, par rapport de notre vie. Tu nais, tu grandis, tu vieillis. Alors que tu nais, on s'occupe de toi, on te prépare pour le remplacement. Alors que tu es jeune, tu te fais former. Et alors que tu es adulte, vu que tu as déjà la formation, il faut que tu formes les autres. Mais généralement dans les églises, on se heurte à des adultes, à des aînés, à des vieillards qui ne veulent pas préparer la relève. Ils font l'affaire de Dieu là comme si quand ils allaient mourir, l'affaire aussi va mourir. Bien-aimé, une évangélisation où on ne prépare pas la relève, c'est compliqué. Il faut former des gens. Parce qu'on peut être rempli de l'esprit, c'est vrai. Poussé par l'esprit, à Pierre a parlé, puis a eu les convertis, c'est vrai. Mais il faut la formation. Il faut former les gens de sorte à ce que lorsqu'ils iront évangéliser, ils doivent savoir qu'à tel moment, il faut que j'agisse comme ça. Une fois, je quittais de l'église, je rentrais et j'ai croisé un gars. Je n'ai pas fait attention. Et je pense que c'était un dimanche. Voilà, j'avais fait la messe de 8 heures. Je pense que c'était un dimanche. C'était le matin, il n'y avait pas beaucoup de monde là où je suis passée. Et le gars, il me dit, viens me prêcher la bonne nouvelle. Bon, je me suis approchée de lui et il me pose la question, on a dit quoi à l'église? Et là, je commence à discuter. Alors que je commence à discuter avec lui, le gars a carrément, il a osé, aïe Seigneur, s'il avait fait ça quand c'était avant, il devait boire pour lui le matin. Il a osé me caresser les fesses. Du coup, j'ai sursauté sur le coup. Et normalement, là, comme ça, là, s'il aurait fait ça à Gina d'avant, il aurait bu un coup le matin. Peut-être qu'on aurait fait la bagarre. Mais je ne sais pas comment je me suis retenue, donc j'ai sursauté et j'ai reculé. Après, je suis partie, j'ai les laissé comme ça, je suis partie. Et en partant, je me suis interrogée sur les techniques pour pouvoir évangéliser hors de l'église. Parce que hors de l'église, on peut tomber sur des personnes qui justement peuvent avoir des gestes qu'on ne va pas forcément aimer. Il ne faut pas rétorquer, je ne sais pas, en insultant la personne, en se bagarrant. Tout ça là, c'est de la formation. Qui plus est, lorsqu'on parle du Seigneur, pour ne pas s'embourber, il faut qu'on soit formé. Et donc, à tous les adultes, tous les aînés qui sont aux disciples de Jésus, de grâce, de miséricorde et de bonté, formez les autres. De sorte à ce que l'évangélisation soit perpétuelle. Ne faites pas comme si l'affaire là, c'était pour vous et pour vous seuls, que quand vous allez mourir, l'affaire de Dieu aussi va mourir. Vous êtes arrivé à un certain âge où, peut-être à cause des responsabilités professionnelles, familiales, etc., etc., vous ne pouvez plus à temps plein évangéliser. Eh bien, formez les gens. Formez-les, s'il vous plaît. La Bible nous le déclare, la parole de Dieu nous demande, sinon nous exige d'enseigner les autres. Il faut former. Ne faisons pas la fête et c'est pour moi seul, j'y reste. Les chantres qui n'aiment pas former les autres, là, formez les autres. Vous allez aller en retraite, que vous le vouliez ou non. Vous irez en retraite, on ira en retraite. Pierre est allé en retraite. Les évangélistes sont allés, ils sont allés en retraite, les gars. Alors formons les autres. Et ceux aussi qui reçoivent la formation, là, pardon. Il faut écouter quand celui qui connaît mieux que toi te forme, écoute. Parce qu'on a aussi des apprentis là qui pensent que l'élève peut dépasser le maître. C'est toi qui ne connais pas, c'est toi qui es nouveau dans l'affaire là. Mais c'est toi qui veux montrer que tu as l'Esprit Saint. Donc, celui qui est là depuis, qui a même de te donner le soubassement de la chose de Dieu, tu commences à dire, oh lui, il n'a pas l'Esprit. Mais s'il vous plaît, formez. N'ayez pas crainte, abusons de la formation. Il y a un formateur qui m'a dit, non, c'est un aîné qui m'a dit, Gina, abuse de la formation. N'aie pas peur, abuse de la formation. Si c'est rien que pour la formation pour le Seigneur, là, il faut en abuser. Matin, midi et soir, fais-toi former. Quand on dit séminaire de formation, on est avec la parole de Dieu. Pardon, les chrétiens catholiques, ils n'aiment pas la formation. Allez-y, vous faites former. De sorte à ce que lorsque vos formateurs vont aller en retraite, vous vous soyez à mesure de former. Ce n'est pas pour rien que l'Église catholique envoie les prêtres en formation, les 7 ans, les 10 ans qu'ils font là. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent que c'est important d'inculquer à un chrétien les bonnes bases. Et la bonne base passe par la formation. C'est vrai, poussé par l'esprit, je ne refuse pas. Mais, l'homme poussé par l'esprit là, il faut savoir bien faire les choses. Alors, le berger, les membres du noyau, les adultes qui sont dans les disciples de Jésus, qui sont aussi dans d'autres groupes là, pardon, formez là-bas. Ne faites pas comme si l'affaire de Dieu là, c'est pour vous. Et puis quand vous allez partir, l'affaire de Dieu va aussi partir avec vous. Donc, s'il vous plaît, formez. Ensuite, le deuxième point que j'estime être important qui gravite autour de l'évangélisation, c'est le principe du raffermissement. Alors, il faut comprendre, bien aimé, que la mission évangélique n'est pas facile. Ça, je l'ai déjà dit. On peut rencontrer, non pas qu'on peut, on rencontre des difficultés. Et face à ces difficultés, qu'on le veuille ou non, on les fait de chair. Ça peut peser. C'est compliqué. Il y a des frères ici ou des sœurs ici parmi qui se sont dit, je vais abandonner l'affaire de Dieu. C'est bon, l'affaire de Dieu et moi, c'est fini. Tu as dit que tu pries et puis tu dis, Seigneur, Seigneur, toi et moi, c'est fini. L'affaire, on arrête. Moi, je m'assois. J'ai préféré mener ma best life loin de toi. Je suis fatiguée parce que ton affaire-là m'épuise. Je me régale. Je n'ai pas l'impression de gagner quelque chose dans ton affaire-là. Petit truc, je suis assaillie. À gauche, à droite, devant, derrière, je suis assaillie. Seigneur, c'est bon. De moi, c'est fini. Alors, bien aimé, il faut comprendre qu'un frère dont on sait qu'il a le dépôt, il a le mandat authentique. Dans cette affaire de mission d'évangélisation-là, lorsque ce frère vous dit, même en blaguant, « Je ne vais pas bien », soyez attentif. Parce qu'à force d'être dans cette mission, cette personne peut se dire, c'est bon, j'arrête. Souvenons-nous que lorsque Pierre, après avoir renié Jésus, je pense, et là je paraphrase, je ne suis pas très sûre, lorsque Jésus revient, je pense, dans ses apparitions ou quelque chose du genre, je suis désolée si je n'ai pas l'image exacte, mais Jésus dit à Pierre, et toi, Pierre, lorsque tu reviendras, raffermis tes frères. Ce qui voudrait dire que ceux qui ont encore la vigueur dans la chose de l'évangélisation, dans la mission qui leur incombe, ceux qui ont encore la vivacité, ceux qui savent que là où ils sont là, ils sont en forme. Satan est simple là, on t'est démoli directement. Ceux qui savent qu'ils ont encore ça là, s'il vous plaît, raffermissez les autres dont vous savez que ça ne va pas. Ils sont sur le point d'abandonner. Parce que ton évangélisation peut rater si tu sais pertinemment qu'un de tes frères qui a reçu mandat authentique de la mission est en train de couler et puis tu ne fais rien parce que tu te dis, moi mon affaire là, je vais aller prêcher. J'ai pas prêché. Ton évangélisation, tu peux la rater. Parce que il est peut-être vrai que le salut est personnel. Mais si lorsque Caïn a tué Abel et Dieu est venu demander à Caïn, où est ton frère? Ce n'est pas un fait anodin. C'est parce que d'une manière directe ou indirecte, on est responsable les uns des autres. Et je pense qu'il y a un verset biblique qui le dit. On est responsable les uns les autres. Donc, il n'y a pas à faire que tu sens que l'autre est en train de s'épuiser, il n'en peut plus, et puis tu passes ton chemin. Non. Tu vas rater ton évangélisation. il faut que tu raffermisses ton frère. Tu sens que le frère, ça ne va pas. Pardon, arrête-toi d'abord. C'est aussi une âme là que tu es en train de sauver. Si tu estimes que cette âme-là n'est pas à sauver parce que prétendument, elle a reçu un mandat, tu te trompes. Hein? Je pense qu'il y a quelques années, j'ai demandé à un groupe d'amis, parce que j'avais constaté que dans leur groupe, il y avait un membre que je ne voyais quasiment et que je ne vois d'ailleurs plus. Je leur ai demandé que ce membre, il est où? Ils m'ont répondu, il s'est égaré. Et moi, je leur ai dit, mais si c'est égaré, c'est de votre faute. Parce que tous les jours, vous étiez ensemble. L'affaire de Dieu, là, c'est si un est là, c'est que le deuxième est derrière, le troisième aussi est derrière, le deuxième, et ainsi de suite. Comment ça se fait que votre frère se soit égaré alors que vous, vous étiez là? Vous êtes responsable de son égarement. Ils m'ont dit, oh non, on est... Je dis que si vous êtes responsable, parce que si vous aurez veillé sur votre frère, si vous aurez été attentif à ses gestes, à ses mouvements, à ses paroles, vous aurez compris que c'est un frère qui a besoin d'être raffermi dans la foi. C'est un frère qui a besoin que vous lui communiquiez le zèle que vous avez encore. Parce qu'à force d'évangéliser tout le temps, on est fatigué. On peut tenter d'abandonner. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on n'abandonne pas? Qu'on ait un frère à côté qui nous dise « Attention ». Si tu veux, frère, dis, on va rester ensemble, on va prier tous les jours ensemble. Si tu estimes que tu veux d'abord faire une pause ou pendant la pause, tu veux boire le café, on n'a qu'à boire le café d'abord nous deux. Mais dans le but de faire en sorte que ce frère qui est épuisé par la mission n'abandonne pas. Excusez-moi, mais celui qui a aidé Jésus à porter la croix là, sur le chemin du calvaire l'a aidé. Hein. Si son nom est cité dans la Bible, je pense que son nom est cité dans la Bible, mais j'ai oublié. Si son nom est cité dans la Bible, c'est que c'est un geste important qu'il a eu à faire. Il a aidé Jésus. Et le temps où Jésus a marché sans la croix, là, ça lui a redonné les forces pour que finalement, il arrive avec son affaire sur la croix. Les femmes qui suivaient Jésus, là, qui pleuraient, là, c'était des encouragements. Ce n'est pas anodin, bien-aimé. Ce n'est vraiment pas anodin. Alors, lorsque vous constatez qu'un frère, même dans la blague, vous dit « je ne vais pas bien », ou dans la blague, vous dit « la fête de Dieu, là, commence déjà à m'épuiser », pardon. Prenons ça en considération. Parce qu'on ne sait pas par quoi l'ennemi est passé pour finalement faire en sorte que ce frère qui a reçu mandat authentique décide de s'arrêter à mi-chemin. Et donc nous allons pour la suite lire Isaïe, les chapitres 43, les versets 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Il y a la suite, mais je préfère m'arrêter là. Alors, ce texte, il est un peu plus pour ces frères et ces sœurs-là qui sont dans cette situation où ils sont épuisés par la mission. La mission, elle épuise. Si déjà le travail qu'on fait dans nos administrations, je ne sais pas, même moi qui vends des salades, je pensais que vendre des salades, ça devait être facile, mais de toute façon, je sens que c'est difficile, là, c'est un peu compliqué. Si déjà, dans ta vie professionnelle, le travail que tu as, c'est pesant, ce n'est pas l'affaire de Dieu où tu dois gagner le maximum d'âmes qui sera léger. Ce texte d'Isaïe, le chapitre 43, le verset 2, est tout spécialement pour ces personnes-là qui sont un peu fatigués ou qui sont totalement épuisés dans cette mission qui leur a été confiée. Alors, j'aimerais que tu réalises que la personne qui t'a donné mandat t'aidera à arriver à point. Parce que l'objectif et la mission première du Seigneur, c'est de récupérer toutes ces âmes, tous ces enfants. Il veut les récupérer et il va les récupérer. Mais pour ça, il a besoin que toi, tu travailles. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Donc, quand tu t'assoupis, là, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement dans l'évolution de la mission. Alors, ce texte, il est pour toi, frère, pour toi, sœur, qui est épuisé par la mission, qui n'arrive plus, qui ne supporte plus. Tu es sur le point d'abandonner. Ce texte, il est pour toi. Que tu saches que la personne qui t'a donné mandat t'aidera à arriver au bout de ta mission. Il te dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. La difficulté, je ne sais pas, financière que tu rencontres, il est avec toi. On a tous écouté le témoignage de Yacharli tout à l'heure, où elle a dit qu'André a proclamé une parole et le lundi, elle a trouvé l'argent dans son sac alors qu'elle savait qu'il n'y avait plus l'argent. Le Dieu qui pourvoit tes besoins, il fera en sorte que dans les eaux dans lesquelles tu marches là, tu ne te noies pas. Alors s'il te plaît, prends courage. Le feu que tu as l'impression que c'est sous tes fesses, tu as juste envie de te lever et partir, ce feu-là, il te dit aujourd'hui qu'il ne te brûlera pas parce qu'il est avec toi. Dans la fosse au lion où tu es là, ta famille te déteste, tu as l'impression que tu es seul au monde. À gauche, à droite, tu ne vois pas d'issue. Le gars qui t'a mandaté, parce qu'il est conscient que la mission qu'il t'a donnée n'est pas facile, lui étant passé par là, alors aussi longtemps qu'on te plongera dans le feu, tu ne brûleras pas parce qu'il est avec toi. Que tu réalises véritablement que Jésus est avec toi, Dieu est avec toi, le Saint-Esprit, ils sont avec toi. Tous les jours de ta vie sont avec toi parce qu'ils savent que tu as accepté volontiers le mandat, tu as accepté volontiers la mission et que tu es fatigué. Ils ont besoin de toi, ils vont te donner la force. Seulement, prends courage. C'est dur, réfugie-toi dans la parole de Dieu. C'est difficile, tu ne veux pas lire la parole de Dieu en moment de silence où tu demandes juste au Seigneur de te donner la force. C'est difficile, je te l'accorde. Le Saint-Esprit te l'accorde. Le Père te l'accorde, le Fils, tout le monde te l'accorde. Mais s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, pour ces âmes-là que Satan utilise, il joue avec eux là. Pour ces âmes-là, demande au Seigneur de t'encourager, de te donner des forces, de sorte à ce que véritablement tu continues la mission. Et surtout, souviens-toi que Dieu, il a dit à Israël qu'il donne des hommes à la place d'Israël et des peuples pour sa vie. Toi, tu es l'Israël de maintenant. Tu es de cette descendance. Tu es l'Israël de maintenant. Alors, ce même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce même Dieu-là va sacrifier des hommes pour toi. Si pour que tu arrives, que tu mènes à bien ta mission, si pour que tu rentres dans la terre promise, là où coule le lait et le miel, il faut que Dieu sacrifie le Gabon tout entier. Parce que tu as du prix à ses yeux, il va sacrifier le Gabon tout entier. Alors pour cette parole qui t'est donnée à toi, qui est un peu fatiguée là, lave le visage, bois de l'eau glacée, soupire, et puis tu dis au Seigneur, avançons un peu. Et vous allez, ou sinon nous allons avancer petit à petit. Tu as du prix aux yeux de Dieu, il ne permettra pas. En tout cas, tant qu'André est berger des disciples de Jésus, il ne permettra pas que tu t'égares, que tu dises que la mission a gelé ça. Tant qu'il y a les membres du noyau, disciples de Jésus, tels que j'ai connu là, ils ne permettront pas, par la grâce de Dieu, que tu t'égares. Seulement, prends courage, frère, prends courage, sœur. Nous sommes là, nous tous là. Derrière toi, on te soutient par nos prières. On te soutient, même si on ne connaît pas forcément ton nom, mais on te soutient par nos prières. Dès qu'on pense disciple de Jésus, eh ben, la prière qui nous a permis de penser disciple de Jésus se répand sur chaque membre. Donc, on pense à toi. N'aie pas peur. Seulement, bois de l'eau glacée, lave le visage et puis avance. Et donc, le dernier point sur les éléments qui sont importants et qui gravitent autour de l'évangélisation, nous trouvons ça dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, le chapitre 13, les versets 35, qui déclare « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour. Les gars, vous aurez raté, on aura raté toute notre mission, toute, du début à la fin, le jour où on a dit Seigneur, oui, jusqu'au jour où il est venu nous enlever pour dire que maintenant, montre-moi tes œuvres, je te montrerai ta foi. On aura tout raté si on n'a pas l'amour. On aura tout raté. Ok. Plafond bas. Tableau noir. On aura tout raté si on n'a pas l'amour les uns pour les autres. Cette affaire d'amour-là, c'est la base. C'est la base, les gars. Il n'y a pas d'évangélisation sans amour. Il n'y a pas de mort de Jésus-Christ sans amour. Il n'y a pas de résurrection sans amour. Pourquoi veux-tu évangéliser sans amour? Pourquoi veux-tu faire les œuvres du Seigneur sans amour? Tu fais seulement comment? Nous autres, là, quand on aime, on ne les fait pas. Donc, quand je n'ai pas l'amour, je ne les fais pas. Mais pour qu'il fasse, il faut avoir de l'amour. Donc, bien-aimé, si tu n'as pas retenu tout ce que j'ai dit là, retiens que tu as échoué ton évangélisation si tu manques d'amour. Tu as échoué d'emblée, échoué 0 sur 20, 0. Tu as échoué le bac. Si le bac là, si l'examen, le baccalauréat là comptait sur l'amour, et plutôt tu as 0 échoué, récalé d'office. Donc, comprends que l'affaire d'amour là, c'est pas plaisanterie, c'est pas jeu. Oh, j'aime aujourd'hui, demain je n'aime pas. En fonction des émotions. Ce n'est pas ça. Bien-aimé, si tu n'aimes pas, non? Il y a un chant qui dit... Pardon. C'est quoi là? Si je parle les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis, je crois, comme les reins qui sonnent ou la cymbale qui retentit, un truc comme ça. Là. Ce chant-là, c'est la base. Ça dit beaucoup. Je pense qu'il y a un couplet qui dit que si j'ai la foi à déplacer les montagnes, si j'ai sans amour, je ne suis rien. Et effectivement, ton évangélisation est vidée de tout sens si tu n'as pas d'amour. Ta mission, elle n'a aucun sens. Zéro quotient devant Jésus, devant Dieu, devant le Saint-Esprit si tu n'as pas d'amour. Donc, il est mieux pour toi à partir d'aujourd'hui que tu te dis, Seigneur, tout ce qui est fait, que je le fasse. Avec l'amour. Tout par amour, rien pour obligation, comme on le dit. Tu évangélises, fais-le avec l'amour. Tu affermis tes frères, fais-le avec amour. Tu pries pour tes frères, fais-le avec amour. Tu réprimandes tes frères, fais-le avec amour. Tu fais ceci, fais-le avec amour. Tout ce que tu fais, fais-le avec amour. Tu viens en aide aux pauvres, fais-le avec amour. Ne le fais pas parce que tu veux montrer aux gens que voilà, tu fais. Toutes ces œuvres-là, sans amour, elles sont vaines. Donc, ne perds pas ton temps à faire des choses sans amour. Tu auras perdu une vie cadeau. Si tu as 35 ans et puis tu as connu le Seigneur à 15 ans, il faut savoir que les 15 ans jusqu'à 35 ans, s'il n'y avait pas l'amour dans les œuvres que tu as fait là, c'est zéro quotient. Zéro. Mais tu as encore l'occasion de te racheter. En faisant une jolie prière à Jésus aujourd'hui et en disant, Seigneur, remplis-moi d'amour. Et là, comme ça, je viens de me souvenir d'un témoignage que j'avais écouté dans un des enseignements du Père Sivan, où il disait, et là je paraphrase, il disait qu'un jour, il quittait le je ne sais où, j'ai oublié, il partait je ne sais où, j'ai toujours oublié, et il faisait l'autostop. Il a arrêté plusieurs voitures, elles sont passées, il se lassait déjà jusqu'à ce que finalement, il a arrêté une voiture. Et lorsqu'il monte dans cette voiture, il se rend compte que le conducteur sent la cigarette, mais il sent la cigarette à un degré que... Nous autres là, normalement, j'ai dit seulement que papa, vraiment merci d'avoir voulu m'aider, mais je dis ça. Et là, comme il était, là où il partait, c'était urgent qu'il y arrive, il s'est quand même dit, je vais rester, mais au-delà de lui, il s'est mis à murmurer. Mais comment ce gars, il peut sentir la cigarette de bonne heure? Parce que c'était le matin, oui. Comment il peut sentir la cigarette de bonne heure? Et là, il expliquait que, alors qu'il était en train de se dire au-delà de lui, le Seigneur lui faisait réaliser que le gars que tu dis qu'il sent la cigarette, de toute façon, tu es en train de parler là. Sache que moi là, c'est moi qui suis là. Considère que c'est moi, Jésus, que tu sais où tu pars pour me servir. Considère que c'est moi qui suis là. Et il disait dans la suite de son témoignage que aussitôt que le Seigneur lui a dit que considère que c'est moi, Jésus, qui suis là, aussitôt, progressivement, l'odeur de la cigarette ne le dérangeait plus. Je prends cet exemple pour te faire comprendre que l'amour que Dieu met au-dedans de toi, à l'égard de tes frères, devrait faire en sorte que progressivement leurs erreurs, leurs mauvais comportements, leurs ceci, leurs tard, leurs cela, progressivement n'aient plus de fait. Parce que plus tu aimes, plus ce que la personne fait normalement ne te fait plus mal. Normalement. Ça, c'est l'amour que Dieu donne, pas l'amour qu'on rafistole. De toute façon, on met beaucoup les multiprises. L'amour que Dieu donne permet à ce que les frères et les sœurs, on les supporte facilement. On les supporte facilement. Et en guise de petit témoignage en ce qui me concerne, avant, je pense, avant la confirmation, j'avais un souci. C'est que j'ai un ami qui, il me foutait les boules. Oh, sans les non, mais c'est vous, il. Et cette situation me dérangeait tellement parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ses agissements, mais aïe, Seigneur. Si j'étais la Gina avant, là, c'est que je lui aurais craché au visage. Là, waouh, peut-être qu'on ne serait même pire. Du coup, je me suis dit, vu que je peux parler des sacrements, je me suis dit, je ne vais pas aller dans les sacrements avec ces situations-là. C'est soit c'est réseau avant, soit c'est réseau avant, il n'y a pas de choix. Du coup, je suis rentrée en prière et je me suis dit, je vais aller à la confession. Et au cours de la confession, voilà, je vais exposer le souci au Père. Et aussi que je me suis rappelée d'un enseignement qui disait que lorsque tu vas en confession, il faut prier pour que la personne que tu vas trouver pour la confession soit disposée. Parce que si la personne n'est pas disposée, c'est compliqué. Du coup, je me suis assise et je priais pour ça. Et là, le Seigneur me dit, tu vas aller voir l'engin, donc le vicaire de la paroisse. Je me suis dit, OK. Mais à la fin de l'engin, là, lui, il est très réticent. Du coup, ça m'a un peu freiné. Mais je suis arrivée, je me suis dit, Seigneur, si tu m'envoies là-bas, c'est là-bas où j'aurai la réponse à mon problème. Et je suis allée contre toute attente. Il m'a très bien accueillie, mais super bien accueillie. Il m'a mis en confiance. Je me suis dit, bon. Donc, ça veut dire que c'est bon. Je suis allée et il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit, je voulais normalement, je viens en principe faire la confession, mais en même temps, j'ai un souci que, voilà, que j'aimerais qu'on discute. Je ne sais pas si on pourra en discuter dans la confession. Il m'a dit non, on commence à voir par ce problème. Et là, je lui ai expliqué le problème et je lui ai dit, j'ai un ami que j'aime beaucoup, mais actuellement, il fait des choses qui m'énervent, mais sérieusement, ça m'énerve. Le soupe, je sens que je vais tourner et tal. Et sans trop vouloir vous donner l'état de la situation, il m'a juste dit, toi, ta mission, c'est de l'aimer. Je lui ai répondu, aimer. Aimer quelqu'un qui m'énerve. Je suis en train de vous dire qu'il m'énerve. De toute façon, il m'énerve, il n'y a que Dieu que vous. Et vous me répondez que moi, ma mission, c'est l'aimer. Il m'a dit, oui, toi, ta mission, c'est de l'aimer. Tu dois tellement l'aimer pour qu'il arrête de faire ce qu'il est en train de faire. Et là, je lui ai dit, je vais essayer. Il me dit, non, 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 tu ne vas pas essayer, tu as fait. Parce que si tu veux qu'il change, ce n'est pas en agissant comme lui qui va changer. C'est en l'aimant. Tu dois l'agacer de ton amour qui va te dire que Seigneur, l'enfant, là, c'est quoi le problème? Il sera obligé d'arrêter. Je lui ai dit, OK, si c'est sorti de votre bouche, c'est que j'aurai la capacité de le faire. Je suis sortie de là. Je me suis dit, bon, l'affaire est un peu compliquée, mais je vais faire comme l'abbé m'a dit. J'ai dit que Seigneur, c'est l'abbé qui a dit que je vais faire. Donc, je vais faire comme l'abbé a dit que je vais faire. Si je n'arrive pas à faire ce que l'abbé n'a pas bien dit, je vais retourner et dire que l'abbé, tu n'as pas bien dit, donc je n'ai pas bien fait. Et je me suis fixé cet objectif de faire comme l'abbé a dit de faire. Et je vous promets que depuis ce jour jusqu'à maintenant, non seulement la situation ne m'agace plus, mais lorsqu'il fait ce qu'il fait, je me souviens seulement de ce que l'abbé a dit. Et quand je me souviens de ce que l'abbé a dit, j'ai l'impression, en fait, que ça me booste. Du coup, je me dis, ça, c'est la parole de Dieu, aimez-vous les uns les autres, ou aime ton prochain comme toi-même. Donc, cette parole, normalement, elle a fait effet pour moi. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je supporte Dieu, même pas que je supporte, ça me dit même plus bien. Quand il fait ses affaires, j'ai maximum un moment de silence, et puis on reprend les hostilités. Seulement, je ne lui ai pas dit que, voilà, c'est parce que le Père m'a dit de t'aimer que je te supporte. Donc, je prends cet exemple pour nous faire comprendre que l'amour que Dieu met en nous est un amour normalement qui devrait nous aider à supporter les tares des frères et des sœurs. de sorte à ce qu'on se supporte mutuellement. La Bible nous le demande, la Bible nous l'exige. Et là aussi, c'est de l'évangélisation, parce qu'on n'évangélise pas qu'avec la parole, avec des mots, où on va prêcher dans les carrefours, dans les quartiers, dans les musées. On évangélise aussi par l'attitude, par les actions, par le comportement. Tout ça, c'est de l'évangélisation. Alors, bien-aimés, je prie véritablement que la mission qui nous a été confiée, nous l'exécutons avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'esprit saint et beaucoup de force, de sorte à ce que on se souvienne toujours que nous avons été mandatés par le roi des rois, que nous avons été mandatés par le Seigneur des seigneurs, et que lorsque ce sera difficile, que ce sera compliqué, qu'il est toujours là avec nous. Et pour terminer, j'aimerais nous lire deux versets bibliques qui m'ont moi-même parlé. Le premier est tiré des Actes des Apôtres, le chapitre 20, les versets 24, qui déclare « Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Je prie véritablement que l'on achève tous notre course avec beaucoup de joie. La mission d'évangéliser n'est pas facile. On rencontre beaucoup de choses compliquées. Allez-y demander à André, allez-y demander à Charlie, à Emmanuel, à Paul, Marcel, à Daniel, à je ne sais pas encore qui ici dans le groupe. Allez-y leur demander, ce n'est pas facile. Il y en a qu'on a empoisonné, ce n'est pas facile. Il y en a, on a dit que sort de ma maison, ce n'est pas facile. Mais qu'au-delà de toute chose, on est à cœur d'accomplir cette course avec beaucoup de joie. Dans l'action de grâce, toujours remercier le Seigneur pour ce que nous accomplissons et même pour ce que nous n'arrivons pas à accomplir. De sorte à ce que véritablement, lorsque le Seigneur nous posera la question, donne-moi tes œuvres et je te montrerai ta foi, que ce soit les œuvres véritablement qui reflètent que nous avons travaillé pour le Seigneur, que nous avons apporté une pierre à l'édifice de l'œuvre de Dieu. Et le deuxième verset biblique est tiré de 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 2, qui déclare « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Bien-aimés, je l'ai déjà dit, abusons de l'évangélisation, abusons de l'annonce du kérig, abusons, matin, midi et soir. Même, tout à l'heure, j'ai dit que même dans le songe, le Seigneur te montre tes ennemis, tu prêches aux ennemis là, correctement. Comme ça, le matin, quand vous croisez l'ancien, il sait que même quand il veut venir un peu t'embrouiller la nuit là, tu prêches la fête, abusons. Le Seigneur nous demande un abus. Il lui prêche la parole, insiste, en toute occasion favorable ou non. Prêche. Ne te soucie pas de « est-ce que je dois beaucoup parler ?» Ne te soucie pas de ça. La parole de Dieu se suffit à elle-même. On n'a pas besoin qu'on l'explique. Tu relâches seulement la parole de Dieu et elle-même, elle fera son affaire. Reprends, pour revenir sur l'argument selon lequel il faut raffermir les frères. Lorsque le frère fait quelque chose qui n'est pas forcément bien, dans la douceur, l'humilité, le respect des choses, reprend l'autre et ramène l'autre sur le bon chemin. Le chemin qui consiste à achever la bonne course. Censure. S'il y a des mesures drastiques à prendre pour que le frère reste dans la course, prenez les mesures drastiques. Exhortez les frères et sœurs, ne vous lassez pas. Ne nous lassons pas. C'est notre mission. On ne nous a pas choisis pour roupiller sur nos coussins. C'est non-stop. Dès qu'on a dit oui, Seigneur, je renonce au mal, je renonce au péché, je m'engage, j'accepte Jésus-Christ, je m'engage à te suivre, Seigneur, au moment que tu veux, je m'engage. On s'est engagé. Ce n'est pas pour faire des faux compromis. Ce n'est pas pour abandonner un chemin. La mission d'évangélisation, c'est comme une femme en travail. La femme en plein travail, si elle ne pousse pas bien, comme la sage-femme dit que pousse, si elle ne pousse pas bien, elle est susceptible de tuer l'enfant. Si elle pousse aussi trop fort, l'enfant aussi peut vite sauter, puis tomber des mains des sages-femmes, et puis boum, l'enfant au sol, c'est la mort. Quand la sage-femme te dit pousse bien, pousse. Quand la sage-femme te dit respire, respire. Ceci peut exprimer le fait que lorsque l'on évangélise, aussi difficile soit la chose, s'il faut qu'on prenne une pause pour boire le café, on prend la pause, on boit le café, on lave le visage et on avance. Ne jamais trop faire la chose de Dieu sans qu'il ne soit à l'intérieur. Parce que trop faire la chose de Dieu revient à pousser fort en oubliant que si tu pousses fort et la sage-femme n'est pas prête à accueillir le bébé dans ses mains, l'enfant peut glisser et se retrouver malencontreusement à un endroit où il aura peut-être cogné la tête, causant ainsi sa mort. Tout en sachant aussi qu'il ne faut pas faire que tu évangélises aujourd'hui, tu n'évangélises pas demain, tu reviens après demain, et puis l'autre jour encore tu es fatigué. Cela reviendrait à ne pas écouter la sage-femme quand elle te dit pousse, parce que c'est elle qui voit le mouvement de l'enfant arriver. Donc quand la sage-femme te dit pousse, c'est-à-dire que quand le Seigneur te dit vas-y, c'est là, c'est le moment, fais, faut faire. Parce que si toi tu dis que tu ne fais pas, cela reviendra à tuer l'enfant, en d'autres termes, à tuer l'évangélisation. Dans tous les cas, soyons attentifs au mouvement de l'esprit. Dans la douceur et en instruisant, veuillons à ce que l'œuvre de Dieu soit perpétuelle. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.